Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Dans le cadre des Détours de Babel, nous avons installé un studio radio au Théâtre Sainte-Marie d'en bas pour aller à la rencontre des artistes et notamment ceux des Babel Solo, ce format intimiste qui fait la part belle aux expérimentations musicales. Les Détours, c'est une grande fête de la musique avec de nombreux concerts un peu partout à Grenoble et dans la région. Ce soir, nous vous proposons de découvrir l'univers artistique de Grégory Dargent, venu présenter Soleil d'hiver, une œuvre protéiforme qui navigue entre photo argentique, vidéo et musique. Je me souviens, j'étais sur le pont du bateau. J'avais 12 ans et je voyais Alger s'éloigner pour ne jamais la revoir. Il n'y avait plus rien. Juste moi et la mer. Je l'avais perdue. Ces paroles sont celles du père de Grégory Dargent. Elles sont aussi la matrice de Soleil d'hiver, puisque 6 mois plus tard, il embarque pour sa première traversée en bateau vers l'Algérie avec un petit boîtier argentique dans la poche. Au micro de Pierre-Emmanuel, Grégory Dargent nous raconte ce voyage initiatique et symbolique. Et pour commencer, une plongée dans son exposition en ce moment à la Galerie des Hautes Lumières au Minimistan.
Alors dans le parcours de cette exposition, on arrive à un moment, alors je ne veux pas tout dévoiler, hein, vous allez y aller, j'espère. On arrive dans un salon, tu nous invites dans un salon, on dirait, voilà, une pièce, peut-être, on peut s'imaginer ce qu'on veut, les meubles sont un petit peu vieillots, et puis on arrive dans ton intimité, alors moi ce que j'ai pris comme... Et donc c'est une invitation peut-être, alors on s'assoit... c'est un moyen de rentrer dans une grande histoire. Moi, je l'ai pris comme ça, par la grande porte, celle de ta maison. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Mais quel est ton propos, justement, dans cette invitation ?
Alors, dans cette exposition, il y a deux mondes. Alors, déjà, j'ai eu la grande, grande chance quand Benoît Caponi m'a invité. Il m'a dit « Tu verras l'espace », parce qu'en fait, quand on fait une exposition, des fois... J'ai pas moi choisi que ça ressemble à ça. Mais par bonheur, il y a eu cette pièce qui, du coup, il faut savoir, mais comme en musique, hein, quand on arrive avec une exposition et qu'on n'est pas l'artiste attendu de l'année, bah, en fait, on apprend à improviser, à se dire, tiens, il se passe ça, tiens, on va chercher des meubles, qu'est-ce qu'on fait ? Mais cette exposition, elle est assez linéaire, dans le sens où on a un long couloir et cette pièce au bout. Et dans le long couloir, j'ai mis quelque part un rapport au réel. J'ai mis des vrais tirages argentiques en noir et blanc, très direct, dont une grande partie sont présents dans le spectacle. Et dans cette pièce, je suis allé faire des tirages sur des papiers d'une extrême fragilité. Ça, pour ceux qui aiment le papier, c'est un papier qui s'appelle Taizan, qui est quasiment un papier japonais très fibré, mais qui est fin comme du papier à cigarette. Donc c'est un papier, si on souffle, le papier va se soulever. Enfin, c'est très très fin. Et là-dessus, je suis allé mettre quelque chose qui est dans l'ordre justement du fantasme, du souvenir, de la perte. Et on y retrouve encore des images qui ne sont pas là, qui seront dans le livre à sortir. Mais on arrive dans ce monde où on sent cette fragilité. Et sur deux modules, j'ai mis une quarantaine de tirages sur papier Taizan. Excusez-moi, mais c'est pour les geeks du papier. Qui est un papier népalais splendide, qui sont des tirages de mes pellicules Super 8 en mouvement. Et donc il y a cette femme en robe à un moment qu'on voit. Il y a une robe comme ça, très lente. Il y a 40 extraits de ce film qui sont accrochés en module et qui nous amènent à penser à ça, à plonger dedans, parce qu'il y a la mer autour. Quelle est cette femme ? Dans mon journal, je parle aussi des gitanes que fumait ma mère avant de mourir et de cette femme en robe sur les paquets de gitanes sur lesquels moi je partais quand j'étais enfant en le regardant. C'est tout un trajet. Et il y a ces écrans, il y a 6 écrans que j'ai bidouillés et qui lisent de la Super 8 en direct. Il y a des boucles de Super 8. Pour les geeks, on pourra en parler après, parce que je suis très bavard sur tout ce qui est argentique, et qui représente principalement mon père, qui est l'homme qu'on voit apparaître un moment au ralenti, entouré d'extraits de souvenirs, de scènes presque banales, de la mer, d'un palmier, mais ce palmier est détruit, de choses qui bougent, et mon père qui est en mouvement au milieu. Il y a ma mère sur un tirage très petit, la photo qu'il y a ici, de, lorsque ma mère est décédée, qui est dans un tiroir. Et on a essayé de construire ça avec Benoît et Jeanne Barbieri qui m'a assisté sur cet intime-là. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance que cette pièce existe. Mais ça aurait été un grand hangar blanc, mais j'aurais dû raconter l'histoire un petit peu différemment. Mais voilà, donc c'est cette phase de photographie qui pose un contexte aussi, mais qui a déjà sa part de psychanalyse ou de symbolique. Et après, c'est vrai qu'on rentre dans cet espace qui est petit, il y a des canapés. Pour la petite histoire, pour les curieux et curieuses, chaque écran, chaque moteur est accordé avec l'autre et ça fait une mélodie pour ceux qui veulent écouter ce que ça fait. J'ai changé chaque vitesse de moteur pour que ça, qu'on soit en do mineur et que ça soit joli. Et voilà.
De tonalité, alors là on a parlé un petit peu musique et ambiance, on va dire graphique, exposition, pardon, mais si on revient à la musique, justement, c'est le chemin là sur lequel tu m'entraînes, les tonalités que tu utilises, la posture, on entend beaucoup de choses différentes, il y a un aspect très rock aussi, moi j'ai trouvé presque heavy metal à des moments. Est-ce que tu as fait des rencontres musicales sur place, dans le monde arabe, où tu as pu échanger ta culture, la culture dans laquelle tu venais, avec les gens sur place?
Mais en permanence.
Ouais.
Et moi, ça a été le but de ces voyages, était de travailler avec ce qu'on va appeler, on va mettre un mot général, qu'on va appeler expérimental. Faut bien des mots valises des fois. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec Maurice Luka, qui est un producteur égyptien magnifique. J'ai travaillé avec quelques personnes de la scène égyptienne, je parle au Caire, qui sont mes miroirs, en fait. C'est-à-dire, pour moi, à un moment, ce qui était important, c'est que mon solo de oud, je voulais que les premières étapes où je le joue, ça soit devant des gens qui savent ce qu'est un oud. Et la première fois que j'ai joué à Beyrouth, mon solo, je faisais vraiment pas, même si j'avais déjà tourné dans le monde arabe. Mais bon, t'arrives, ils t'attendent un peu tous au tournant. J'ai été adoubé par la scène et du coup, maintenant, j'y vais. Enfin, là, en ce moment, je peux pas, mais j'y étais il y a un mois, juste avant que ça pète. Je travaillais là-bas. Et il y a une scène musicale qui sont nos miroirs, parce qu'en fait, des fois, moi, là, j'ai monté un quartet à Beyrouth le mois dernier. Enfin, on est en train de monter un quartet en espérant qu'on arrivera à le faire vivre. J'avais mes miroirs. Il y avait Abed Kobaisi, qui est un magnifique joueur de bouzouk, qui est un duo qui s'appelle Tour of the Dragon.
Retenez bien tous les noms qu'il va vous dire, parce que je pense que ça va être bien pour plonger. Hein.
Tour of the Dragon, Abed Kobaisi.
On pourra mettre ça sur le site,
Ali
sur
Route,
campus.
À fond. Et ben lui, il joue le bouzouk. Donc le bouzouk, c'est comme un saz, vaguement comme un bouzouki, mais de loin, avec des pédales. Et en fait, quand on a joué ensemble, on avait... ça s'est fait d'un naturel... Mais c'est pas le même parcours. Lui, il a commencé par la tradition, il jouait les moichats, il jouait tout ça. Et d'un coup, il avait sa culture aussi de musique électroacoustique qu'il a rajoutée. Et moi, je viens des musiques improvisées. J'ai fait du jazz moderne, enfin, contemporain, je ne sais pas comment on appelle ça. Et quand je me suis mis au oud, je l'ai travaillé très acoustique. Puis à un moment, pour H, quand je voulais parler des essais nucléaires, j'avais tout ce qu'il faut à la maison comme culture et comme matériel pour d'un coup dire « Ok, ben là, c'est parti. Après 20 ans de oud acoustique, on va partir. » Et en fait, pour moi, c'est ces travaux en miroir qui sont à la fois fascinants. Mais en même temps, quand on y est, bah, c'est comme tous les gens qu'on croise, en fait. En fait, à un moment, si la musique, c'était faire la cuisine, on en ferait moins tout un plat, sans jeu de mots.
C'est bien dit, ça.
Non, mais en fait, à un moment, il y a quelque chose. Alors, bien sûr que moi, si je vois quelqu'un qui arrive du fin fond du Bangladesh et qui me dit qu'il est le roi du cassoulet, bien sûr que ça va me faire marrer, en fait. Mais fondamentalement, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Et donc, il y a tous ces endroits, et en Irak aussi, parce que quand j'ai joué en Irak, ce solo, mais sans les images, et en gros, plus musique impro encore, du coup, il n'y avait pas les images, donc je suis allé un peu dans des endroits un peu hasardeux. La moitié des gens, que c'était un peu une espèce de génération qui est assoiffée d'expressions un peu radicales aussi, parce qu'il y a une ouverture aussi.
Dans quel sens, radical, tu dirais ?
C'est-à-dire que... là où on a, par exemple en France, eu l'énorme chance d'avoir des théâtres, des festivals, des choses, pour ce qu'il s'agisse de la musique live, on a quand même une chance qui est inouïe sur la planète. Hein. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, on peut être dans une ville qui n'est pas une grande métropole et voir du classique, du reggae, du heavy metal, du rap, même si c'est une fois de temps en temps. Il y a des endroits, moi j'étais au Kurdistan irakien, donc j'étais à 60 bornes de l'Iran et à 110 bornes de la Syrie, et c'était une ambiance. Là-bas, le mec il dit voir un groupe de jazz qui fait un concert, enfin je veux dire, il y a des endroits, ils en sont pas là, je parle pas les gens, hein. Je parle comment un gouvernement peut aider, il n'y a pas de subvention, enfin, tout est fait de manière complètement différente. Mais il y a une curiosité parce que c'est quand même maintenant des générations qui sont branchées sur Internet depuis des années. Donc ils arrivent avec une culture, il n'y a rien à... Pour ça, moi j'arrivais, moi j'ai appris d'eux, ils ont appris de moi, mais Maurice Luca, il m'a aussi montré des trucs de noise. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un gap comme ça, je ne suis pas un sachant qui arrive, hein. C'est juste... Ce qui est beau, c'est nos chemins. Mais au final, c'est des... Mais j'ai joué devant des messieurs kurdes qui, en parlant avec moi, il y a quelques années encore, étaient dans les montagnes avec leurs fusils à se battre contre Daesh, quoi.
Donc grosse rencontre alors dans tes voyages. Donc évidemment pas que musicalement, mais quand ça prend la forme d'un concert devant des gens qui n'en entendent quasiment jamais en live comme on peut en entendre ici, quelle dimension ça peut prendre pour toi ?
Moi j'y vais humblement, c'est-à-dire je me prépare à ce que des gens n'aiment pas, mais comme n'importe quel concert que je fais dans ma vie, c'est-à-dire, en fait je suis pas là pour être aimé. Enfin, il y en a qui...
Tu es là pour faire ton truc.
Non, mais il y en a, c'est leur boulot, il y a des franges de la musique où le but c'est d'être aimé, il y a des franges qu'on va appeler plus commerciales, c'est un des principes est là. Moi c'est pas mon moteur... Mais par contre, de se dire, ok, on me parle d'universalité de la musique depuis que je fais de la musique de manière très pompeuse. Bon, à un moment, quand t'es devant des anciens combattants kurdes qui se sont battus contre Saddam Hussein, après ils se sont battus contre Daesh, et toi t'arrives et tu fais... Et tu détruis un oud. C'est intéressant quand même de se rendre compte
bien
de quoi on parle. Et y en a qui vont pas aimer, ce que je conçois très facilement. Y en a qui vont adorer et la vie n'est que surprise. C'est-à-dire, maintenant, ce que je sais, c'est que je ne pourrai jamais présumer dans ma vie de qui va aimer quelque chose et qui ne va pas aimer, s'il est sincère, en tout cas, dans sa réception. Après, c'est le chemin d'aller jouer là-bas. Il y a une chose que je n'ai pas rencontrée là-bas et qui m'interroge beaucoup une fois ici, c'est ces questions d'appropriation culturelle qui souvent, là-bas, les font rire. Quand j'en parlais, parce qu'ils disaient « mais t'es pas concerné », et quand je suis en Europe, c'est des questions qui reviennent plus souvent. Donc c'est aussi toutes ces choses-là qui font qu'on grandit chacun dans ses nuances, dans sa réflexion. Parce qu'à un moment, je me disais quand même, les mecs, ils t'arrivent, ça m'empêche pas de faire ce que je fais, mais c'est une question, on peut pas ne pas se la poser. T'arrives, tu prends un oud et tu vas le défoncer, quoi. Enfin, je veux dire, quelque part. Ou, j'ai joué devant des Algériens, enfin, dans des salles, il y avait sur les Algériens, t'as la baie d'Alger et elle explose, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est ça qui se passe dans le spectacle. Tu sais pas. Mais si on prend pas ce risque, la discussion, on l'aura pas. Parce que même s'ils aiment pas, au moins, on est là. Et moi, pour l'anecdote, quand je l'ai créé à Strasbourg, il y a quelqu'un qui est arrivé après, un homme de 35 ans. Et en fait, quand mes images explosent, là, il y a un moment, j'ai fait exploser. il a vu l'appart de son grand-père sur la baie. Et j'ai fait péter. Non, mais lui, il était à fond, en fait.
Il est venu te voir pour en parler, après.
Il était ému, parce qu'il dit, ouais, j'ai vu la baie, et mon grand-père, il habitait là, et quand il y avait la décennie noire, mes parents m'avaient caché là, le temps que je parte en France. Et là, toi, tu le fais exploser. Mais les gens comprennent que c'est symbolique, les gens comprennent bien tout ça. Mais on ne sait jamais, on y va sur des œufs, et puis... Mais bon, de toute façon, moi, plus je voyage, plus je suis... plus j'aime l'être humain. Moi, c'est ma seule leçon, hein, c'est qu'en fait, faut aller voir. Hein. J'ai rencontré que de l'amour et des grosses engueulades, mais joyeuses, quoi.
J'ai pas envie de dire que ça sera le mot de la fin, mais enfin, en tout cas, c'est un beau mot, ce que tu dis, et c'est l'essence même du voyage, hein, ça, c'est clair, c'est même pas une banalité, c'est la réalité, moi, je trouve. Bah, écoute, merci, Grégory, pour ces beaux témoignages. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question. Non, bah écoute, on va se quitter là-dessus, puis en musique aussi, du coup.
D'accord, bah oui.
Merci beaucoup. Ah, je crois que... Non, pardon, on va pas tout à fait se quitter, parce qu'on va annoncer quand même la suite du programme. On a Pierre-Henri qui programme... Non, t'avais envie de dire un petit
Attends,
mot,
je vais juste me faire une auto-pub.
Mais oui, bien sûr.
Non, parce que quand même, j'ai mon livre qui est en préparation, donc entre autres ces images-là, mais beaucoup, beaucoup d'autres. Et il est actuellement dans ce qu'on appelle une précommande. Et cette précommande, en fait, c'est l'acheter en avance, ce qui permet que mon éditeur soit hyper content et détendu. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai des cartes de visite que j'ai disséminées, mais j'en ai dans la poche, sur lesquelles se trouvent toutes les infos. Pour ceux qui se diraient, tiens, ben, qu'est-ce que ça donne en bouquin ? Ben, si vous précommandez, on l'envoie à l'impression fin mai. Et ça sortira fin juin, début juillet. Donc voilà, vous êtes les bienvenus.
Et on met ça sur le site de Campus, campusgrenoble.org, évidemment.
À fond.
Okay. Merci encore, Grégory. Salut Pierre-Henri.
Bonjour.
Les détours continuent.
Bah oui.
Qu'est-ce que tu avais envie d'annoncer pour la suite ?
Déjà, j'avais envie de dire qu'on était hyper contents d'accueillir Grégory Dargent et ce projet, effectivement, sur lequel on lorgnait depuis un petit moment, donc c'est un vrai bonheur. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Simplement rappeler peut-être les rendez-vous qui se passent au théâtre, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup dans plein d'endroits, mais dans ce théâtre qui est un écrin quand même assez génial pour accueillir ce type de projet. On a un autre solo avec Aurélie Saraf, donc qui est une harpiste française, qui va nous embarquer aussi dans un récit intime, en rapport avec alors quelque chose de plus léger, de d'un peu peut-être plus pas ludique, mais avec pas mal d'humour aussi, et un jeu sur la harpe et la démultiplication de son instrument, puisque cette harpe va être augmentée, va être déformée, propulsée via un jeu d'écran dans l'espace scénique. Donc voilà, ça va être une création qui s'appelle Guêpes, grenouilles et monstres, et c'est mercredi prochain au théâtre Sainte-Marie d'en Bas. Et puis peut-être pour finir aussi, rappeler qu'on a des rendez-vous pour les familles et le jeune public les samedis. Donc il y en a un dès ce samedi avec un projet qui s'appelle Rivage. Et là, on est à nouveau dans une proposition assez immersive sur le thème de l'océan, du monde marin. Avec
l'un des grands thèmes du festival.
Exactement. C'est un des fils rouges un peu qu'on a tiré sur cette année, l'océan, les odyssées d'hier, d'aujourd'hui, réel, imaginaire. Donc on a essayé de travailler un petit peu des éléments de programmation là-dessus. Et pour le jeune public, ça s'incarne par Rivage. Donc c'est un très beau concert effectivement immersif avec une bande sonore qui intègre des éléments du monde marin, des enregistrements de cétacés, mais aussi de personnes qui travaillent et qui vivent autour de la mer, sur la mer, donc, et tout ça en musique.
Super voyage.
Voilà, et ça c'est ce samedi, exactement.
Et allez, un dernier truc, parce que quand même, moi je voudrais inviter les auditeurs et les auditrices à venir au brunch malgré le temps qui se profile, et je sais qu'il y a des super plans B qui sont en train d'être mis en place, et c'est au Fort Barreau, bien sûr.
Oui, effectivement, il y a des plans B, C, D. Nous, on va y arriver. De toute façon, on se réinvente un peu tout le temps dans ces métiers, donc on fait avec les conditions météo qui sont effectivement pas idéales. Donc on a décidé de maintenir déjà le brunch Barreau dans la partie programmation. Après, on va aménager la journée, les espaces un peu différemment, parce que ce qui jouait en extérieur pour les artistes et aussi pour les publics, être là en tant que public, c'est pas forcément évident. Donc on va s'organiser pour qu'on puisse accueillir les publics et aussi les artistes, donc plutôt dans les espaces intérieurs, tranquillement, voilà, dans des conditions assez optimales. Et on garde effectivement cette belle programmation. On a la chance d'avoir Étienne Vassier, donc qu'on retrouve sur notre visuel cette année, donc une sublime chanteuse d'origine éthiopienne qui vient pour une formation en trio avec deux contrebassistes, un contrebassiste et un bassiste. Donc c'est aussi un instrumentarium et un environnement sonore assez inédit. Donc il y a elle, il y a Erol Josué aussi, qui est vraiment un personnage assez incroyable, donc ce prêtre vaudou haïtien qui va nous inviter à une cérémonie, concert assez puissante. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Mélina, qui est
qui vient de Grèce,
qui est d'origine grecque effectivement, et qui va nous emmener dans une proposition musicale entre tradition et pop un peu minimaliste, folk urbain, on va dire. Et puis, il nous en manque encore peut-être, mais n'hésitez pas à aller sur notre site. Il y a toutes les infos.
Il faut venir nombreux et nombreuses pour venir les découvrir.
Exactement.
Le site du CIMN, bien sûr, mais il faut venir. Donc, c'est au Fort Barreau. Et puis, un grand merci. Il y aura encore plein de choses après jusqu'au 5 avril. Donc il y a toute la prog à découvrir encore pour jusqu'à la fin du festival.
Jusqu'à la fin, effectivement, tu parles de la fin. Ça me fait penser à la clôture. On a une clôture exceptionnelle cette année. On parlait du monde arabe avec Grégory et de l'Orient. On accueille une troupe de Casablanca qui s'appelle Cabaret Shiratz.
Très drôle, ça.
Et ça va être un théâtre burlesque musical. Avec un voyage à la découverte des Shirat, qui sont ces grandes chanteuses populaires marocaines qui existent depuis très très longtemps et qui ont joué aussi un rôle politique au Maroc pendant longtemps et qui incarnent un esprit de liberté, un esprit de poésie, de musicalité et aussi de puissance dont se sont inspirés une troupe de comédiens à la base qui sont aussi musiciens et qui sont des hommes qui vont rendre hommage à ces grandes figures de femmes en reprenant leur liberté dans la tenue vestimentaire, dans le jeu, dans l'amusement, les apparats, voilà, tout ce...
Petite provocation, quoi, aussi, hein. Ouais.
Enfin, exactement, elle, ouais. C'est de la provocation, mais en douceur, en
très
poésie.
Très bienveillante, bien sûr.
Et qui permet de découvrir tout un pan aussi de la culture marocaine qu'on ne connaît pas chez nous.
Et ça se passe où?
Et c'est au théâtre Sainte-Marie d'en Bas.
Ici, où on est actuellement.
Voilà, okay. Le 4 avril.
Oh, très bien, ouais, pour la fin. Merci beaucoup, Pierre-Henri.
Merci aussi à vous, Radio Campus. C'était super de vous avoir.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Thank you. L'apérophonie. Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie. C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.